Barcelona. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, c'est parti?
Ouais, c'est parti,
ouais. Tu peux ouais, c'est bon. Okay. Bonjour. Bon, a priori, j'ai une dizaine de minutes pour essayer de développer, je vais essayer de faire une synthèse la plus rapide possible sur l'état des connaissances sur la circulation de la doctrine de contre-insurrection française et notamment bon, son internationalisation, parce que maintenant elle est plus française. Le point de départ de tout ça, finalement, c'est que pendant les guerres coloniales, enfin, des coopérations policières et des militaires autour des marchés des armes, autour des marchés de la violence et autour de la lutte contre, à l'époque, le communisme, c'était le post-1917. C'est vraiment à ce moment-là que la police française, enfin, les polices politiques, commencent à mettre en place des structures de collaboration avec d'autres États et des échanges d'informations. Et à la fin des années 30, se mettent en place des réelles structures de formation, depuis la France, de formation à ce qu'on appelle la pensée de défense à l'époque, maintenant on dit la pensée de défense et de sécurité, et où du coup il s'agit de former des cadres, des administrations et des armées des pays alliés aux doctrines françaises, et notamment dans l'idée dans un acte diplomatique, mais aussi géostratégique. Et puis la grande rupture qui va se faire avec les années 50, enfin à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, pendant les guerres coloniales et pendant les contre-révolutions, les guerres contre-révolutionnaires, ça va être la transformation du système de contrôle en marché. C'est-à-dire qu'il va devenir profitable de vendre à la fois des doctrines de guerre contre-révolutionnaire, des doctrines de contre-insurrection et des matériels et les équipements qui vont avec, et puis là, bien entendu, ça s'est connecté forcément à la recherche et développement et en maintien en conditions opérationnelles. Du coup, après la bataille d'Alger, où l'armée française met en place le prototype de sa marchandise principale, de sa doctrine de guerre dans la population, c'est le DPU, le dispositif de protection urbain, qui est un protocole de quadrillage, d'écrasement, d'élimination, et de déplacement de population appliqué à la Casbah d'Alger, du coup en cadre urbain. Ce dispositif est présenté au reste du monde comme ayant permis d'écraser définitivement le FLN et la LN. Alors en l'occurrence, il va être appliqué aussi pendant le plan Châle dans les montagnes, à des situations de maquis, à la guérilla, à la LN. Et effectivement, militairement, ça va avoir un impact très, très fort. C'est-à-dire que l'ALN est très largement démantelée en deux années et elle est obligée d'exister de côté des frontières, en Tunisie et au Maroc. Et du FLN reste des réseaux beaucoup, beaucoup moins structurés. Et donc les états-majors militaires français et les industriels qui collaborent avec, qui sont connectés, font état dans le monde entier de l'expansion d'une doctrine qui permet d'écraser son ennemi intérieur et accessoirement de militariser la société. Qui est assez pratique quand on a pour projet une restructuration néolibérale du capitalisme. Et donc ce qui va se passer, c'est que les premières exportations, souvent on pointe l'Argentine et l'Amérique du Sud, mais en fait il y a déjà des importations à l'intérieur de la métropole avant la fin de la guerre d'Algérie, c'est-à-dire que, je ne vais pas m'étendre dessus, mais la répression du 17 octobre 1961 participe de l'appropriation de ces doctrines-là dans le domaine policier. Mais aussi, à partir de 60, on voit l'utilisation, au moment où l'État français est censé se défaire de cette doctrine, parce qu'elle est portée par le PAF, puis bientôt l'OAS, c'est-à-dire par des franges fascistes de l'armée, et que donc, ça se retourne contre l'État déjà militaire, De Gaulle prend le pouvoir grâce à un coup d'État militaire en 58. Cette doctrine est déjà utilisée au moment où on est censé s'en débarrasser, elle est utilisée pour... pacifier et, comme ils disent, écraser les populations en lutte au nord du Cameroun, qui débouche sur un massacre gigantesque. Il s'agit d'écraser les révolutionnaires. Voilà. Donc, bon, les exportations suivantes qu'on connaît, sur lesquelles il y a des études sérieuses, du coup, c'est l'Argentine. Il y a le Brésil avant, où la prise de pouvoir par les militaires est largement inspirée, voire pour certains points calquée sur le modèle français de contre-insurrection. Brésil, Argentine, Chili, et puis en fait à travers le plan Condor, c'est la grammaire, la syntaxe du modèle contre-insurrectionnel français qui transparaît dans l'application à travers le plan Condor d'un schéma d'élimination des ennemis intérieurs rouges, des subversifs dans toute l'Amérique du Sud. On en trouve un équivalent dans le plan Phoenix, qui est un plan pareil co-dirigé par les États-Unis et appliqué à l'Asie du Sud-Est, et donc notamment avec des situations très très comparables au dispositif de protection en Inde, la bataille d'Alger, par exemple aux Philippines. Par la suite, on en voit encore des utilisations, on dirait à l'intérieur, mais ce n'est pas à l'intérieur, le Pays Basque étant un territoire colonisé. Mais du coup, à travers l'écrasement contre-révolutionnaire de TA, mais plus largement du mouvement de libération basque, à travers le plan ZEN, Zona de Emergencia Internacional, et les unités GAL, qui sont des unités militarisées, paramilitaires, parapolicières, qui dérivent de ce répertoire de la contre-insurrection et des contacts, de la collaboration structurelle qu'il y a eu entre l'OAS et Madrid et Franco et l'appareil d'État français. On le voit très bien, c'était pas très documenté, mais on le voit très bien depuis une quinzaine d'années dans ce qui se passe au Mexique, où l'armée mexicaine et le plan, les plans de contre-insurrection appliqués au mouvement zapatiste et dans différentes régions à travers le narcotrafic, etc., où on voit des liens directs avec des officiers, des industriels et la doctrine et les doctrinaires français de la contre-insurrection. Où là, il ne s'agit plus d'une exportation directe, mais bien de collaboration, de coproduction de nouvelles doctrines de guerre dans la population. Voilà. Les dernières utilisations, c'est tout au long de cette histoire-là, les puissances impérialistes font dériver, à partir de l'appropriation de cette doctrine-là, de nouveaux répertoires de guerre dans la population applicables à leur quartier populaire. C'est un nouveau répertoire qui va puiser dans le répertoire colonial et militaire pour réagencer des dispositifs. Et depuis ce nouveau répertoire qui est appliqué au quartier populaire, à l'écrasement des classes populaires, on a aussi un répertoire de gestion des mouvements sociaux et des mouvements révolutionnaires qui puise dans cet univers doctrinal qu'est la contre-insurrection et qui fait qu'on trouve des protocoles de quadrillage, des protocoles d'action psychologique et toute une série de dispositifs mis en système par les schémas contre-insurrectionnels dans les nouvelles doctrines de contrôle des mouvements sociaux. Une bonne introduction, une discussion sur ce qui se passe actuellement à Paris, Rennes, Nantes, etc. Voilà, je pense que j'ai explosé mon temps de parole.
Non, voilà. Et juste, est-ce que tu peux dire aujourd'hui, dans la pensée militaire française, comment est vue la guerre, cette guerre contre-révolutionnaire ? Aujourd'hui, si elle est mise à l'écart ou qu'est-ce qui se passe?
Non, c'est l'inverse. Il y a une lutte interne dans l'armée depuis les années 50, enfin, depuis la soi-disant interdiction de cette doctrine-là, pour dire mais on continue à s'en servir dans le précaré africain. Alors pourquoi on fait semblant et surtout pourquoi on réprime les généraux qui s'en sont servis? Et donc cette branche-là a gagné à la sortie des années 80, début des années 90, et du coup, après l'utilisation de cette doctrine-là au Rwanda et la formation du Hutu Power à cette doctrine-là, les franges de l'armée française qui disaient qu'il fallait assumer que l'État français continue à se servir de ces méthodes-là, a gagné. Du coup, à partir de 95, il y a des gens, des auteurs qui l'assument dans des revues aussi importantes que la revue de Défense Nationale. Et là, aujourd'hui, on est au-delà de ça. La plupart des phrases, des franges militaires s'indignent du fait que le répertoire, le savoir-faire français acquis pendant la guerre d'Algérie, qui fait son excellence, ne soit pas reconnu à sa juste valeur, etc. Il y a un culte de l'histoire française pendant la guerre d'Algérie. Et puis, il y a effectivement, si ce n'est pas de l'excellence, c'est effectivement la continuation d'une expertise française dans le domaine de la guerre dans la population, de par sa participation à des guerres contre-insurrectionnelles en cours, en Afghanistan, mais de par ce que fait l'armée française au Mali, en Centrafrique, dans la plupart des territoires extérieurs où des guerres néocoloniales sont en cours, l'armée française y emploie des modèles des modèles contre-insurrectionnels. Et quand on dit l'armée française, ça peut être de l'infanterie, mais ça, il y a aussi une partie de la gendarmerie qui fait ça, qui du coup, elle-même participe à l'importation directe d'idées, de pratiques, de techniques.
Ok. Ouais, je pense que c'est pas mal du coup ça. Nous, on va continuer à discuter. Je sais pas si toi t'entends là. Sinon, nous, on fait un enregistrement audio. Du coup, suivant toi, si t'entends, ou sinon, on t'enverra l'enregistrement audio.
Je pense que j'écouterai l'enregistrement audio parce que
okay. C'est pas okay. Ça marche. Du coup, on te salue. Nous, on va continuer.
Ok, ça marche. Voilà.
Si tu penses à quelque chose ou quoi, etc., on te rappelle.
Non, c'est s'il y avait une question ou deux, là j'étais
Si des gens veulent faire du coup une question directe avant qu'on fasse on parle entre nous, ou si ça vous va, qu'on passe la parole. T'entends là?
Non.
Ouais. Non, mais on peut lui demander directement s'il y a une question.
Est-ce qu'il voit un lien? Est-ce que tu m'entends ou pas?
Non.
Non, il peut pas. D'accord. Est-ce qu'il voit un lien entre la représentation et la manifestation et la vie? Est-ce qu'il y a par rapport à ce que fait la police en ce moment? Est-ce qu'il y a une inspiration
Du coup, il y a une question sur quel lien tu vois entre ce que fait actuellement la police et peut-être l'état d'urgence et ça et l'armée et cette doctrine de guerre révolutionnaire.
Et le lien, c'est au niveau des états-majors, c'est une grammaire imaginaire qu'il y a dans la contre-insurrection. C'est l'idée que la population est le milieu de prolifération du virus subversif et que pour ceci, c'est censé. Donc, il faut la quadriller, il faut la traverser, il faut la démembrer. Le virus subversif, ça dépend des situations, mais dans certaines manières dont est construite et instrumentalisée la figure du casseur, ça ressemble beaucoup à une figure d'ennemi intérieur, qui est généralement les doctrines militaro-policières qui désignent des ennemis intérieurs. Alors, mettre en avant le fait qu'il s'agit de détruire, mais en fait, la plupart du temps, mettre en pratique. Des protocoles qui consistent à encadrer la population désignée comme le milieu de prolifération de cet ennemi intérieur. Alors voilà, dans le quadrillage médiatico-policier, bien entendu, ça ne veut pas dire que c'est les mêmes. Ça fonctionne de manière similaire, mais ce n'est pas les mêmes dispositifs que dans la contre-insurrection militaire. Et du coup, au niveau de la gestion de l'action psychologique, dont le relais est pris. Par les grands médias, par la manière dont ils construisent le mouvement social. Donc, même c'est assez marrant d'ailleurs de trouver des figures de la menace appliquée à la CGT, c'était plus très courant. Dans l'utilisation de la coercition, dans l'utilisation de la terrorisation de l'État, le fait d'utiliser la violence d'un corps, hein, qu'il soit militaire ou policier, pour frapper jusqu'à risquer de tuer. Des anonymes dans la rue, c'est parti d'un protocole de terrorisation, il s'agit de renvoyer chacun chez soi et de vider les rues. Ce rapport à la rue, il me semble proprement contre-insurrectionnel. Ça joue à plein de niveaux. Il ne s'agit pas de dire que les dispositifs sont calqués, il s'agit de dire qu'il y a des répertoires dans lesquels l'État et les états-majors vont puiser, mais des répertoires à la fois historiques, des répertoires passés, et puis des répertoires simultanés. C'est-à-dire qu'en ce moment, l'État emploie de la contre-insurrection militaire à l'extérieur. C'est un répertoire ultra contemporain. Et puis des armes aussi, hein. des armes qu'on voit, des armes, des armements, des équipements qu'on voit circuler depuis le champ militaire jusqu'en cette forme de contre-insurrection médiatique et policière. Je pense au flashball, je pense aux grenades de désencerclement, enfin, bon, tous ces armements là auxquels on fait face, desquels tout le monde discute en ce moment. Et qui circulent de manière hybride entre les champs de bataille militaires et policiers.
Du coup, on va continuer, nous, à discuter.
Et ouais.
on te passe, de toute façon, on te passe l'enregistrement et puis on va voir après dans les suites comment on peut continuer, enfin peut-être dans les prochains mois ou quelque chose par rapport à ça. Ok, okay. Ouais.
Ça marche. Ça marche. Eh ben, bonne discussion, bon courage.
Ouais, ça marche.
Salut.
Allez. Et bon courage à toi avec Nissam.
Ça marche. Allez. Merci.
Ciao.
Du coup, bah Mathieu Rigousse, il a fait, notamment, il a fait sa thèse sur les archives militaires, en fait. Du coup, c'est pour ça, pour les personnes qui ne localisent pas un peu. Et il avait fait sur l'application de ça, de cette doctrine révolutionnaire à l'intérieur de la métropole. Et donc, notamment... voir un peu cette circulation. Après, il y a un certain nombre de gens un peu qui ont étudié universitairement, mais ça sort pas beaucoup dans certains cercles, etc. Alors, avant de discuter peut-être tous ensemble, on voulait faire une prise de parole, nous, pour le CSPCL, pour Ayotzinapa, survie, et puis les copains de BDS Palestine. Et tu dis.
Il y a aussi la question sur. Il y a aussi un peu sur la demande de Camoun qui est invité.
Ouais, ok. Et du coup, avec le copain du Cameroun, est-ce qu'il y a des gens juste.
T'as pas de questions pour les énergies, pardon. Je sais pas mieux, on se met en roue et puis j'ai des paroles, elles se font on peut un petit peu.
Ouais, on peut se mettre.
Peu, oui. Faire une discussion plus ouverte, chacun est peut-être à l'aise. En roue.